Frères et sœurs magnifiques, notre méditation du jour va se présenter sous la forme schématico-classique d'un récit. Nous avons tous appris au collège que la plupart des récits obéissent à une structure type qui comprend une situation initiale ou le départ, un événement ou un élément perturbateur, des péripéties et une situation finale. Sauf que notre méditation, la troisième partie sera appelée conséquences et la dernière partie qui est la situation finale sera la grande aventure pour Dieu. Situation initiale. L'histoire nous apprend qu'au début, le monde était aux mains de l'Église et la vie de la société était régie par les normes religieuses. Dieu et son Église étaient au centre de toutes choses. Du coup, le prêtre qui connaissait tous ses paroissiens baptisait les enfants, mariait les couples, entendait les confessions, bénissait les chevaux et les récoltes et accompagnait tout le monde au moment du passage de la mort. Il était donc un personnage connu, de chacun. Son église était symboliquement construite au cœur du village de la ville, afin que nous n'oublions jamais la présence de Dieu et l'importance de ses représentants. L'église possédait le monopole de l'enseignement. En effet, les clercs étaient plus ou moins instruits et certains d'entre eux étaient chargés d'apprendre aux enfants les bases de la lecture, de l'écriture et des chiffres. Elle le fit longtemps au sein des monastères. Par la suite, des écoles cathédrales urbaines furent mises en place, placées sous la responsabilité de l'Église. À partir du XIIe siècle, l'Église fonda des universités qui furent directement placées sous l'autorité du pape. L'Église offrait et même imposait aux hommes une vision totalement chrétienne de la société. C'est elle qui était à l'origine de l'explication de son héritage entre ceux qui priaient le clergé, ceux qui combattaient les nobles et ceux qui travaillaient, c'est-à-dire le reste de la population. Riches, pauvres, nobles ou priés, chacun devait rester à sa place et tenir son rôle. Parce qu'elle justifiait cette situation comme une émanation de la volonté divine, nul ne pouvait se permettre de la remettre en cause. Jusque-là, tout allait bien. Événement perturbateur. Dans la moitié du XIIIe siècle, une séparation s'instaure progressivement entre le domaine religieux et le domaine public, avec l'abandon par les églises de certaines fonctions qu'elles remplissaient dans la société civile et politique. C'est ce que l'on a appelé sécularisme. Selon la religion, le sécularisme est une doctrine selon laquelle l'Église ne doit pas avoir de pouvoir politique ni influencer le gouvernement d'un pays. Pour le politique, le sécularisme est le principe selon lequel les questions religieuses doivent être séparées de celles de l'État. La liberté de culte n'est pas mise en cause, mais l'Église ne doit pas intervenir dans la politique. L'irreligion, quant à elle, est une opinion philosophique qui ne comprend pas le culte religieux. Dans les faits, ce terme englobe des notions très diverses comme l'athéisme, l'agnosticisme, le déisme, le scepticisme et la libre pensée. L'irreligion a au moins trois aspects distinctifs. Premier aspect, refus de clamer ou professer une foi. Deuxième aspect, attitude d'indifférence ou plus rarement d'hostilité envers la notion de religion. Le troisième aspect, opposition aux règles, croyances et rites des religions institutionnelles. Le sécularisme étant adopté, la séparation Église-État est donc consommée. Place alors à la laïcité, une idéologie politique. En droit, la laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, et de partialité ou de neutralité de l'État à l'égard des professions religieuses. De nos jours, mis à part quelques pays comme Chypre, Danemark et Finlande et les pays islamiques, la plupart des pays dans le monde sont laïcs. Alors que la sécularisation postule l'autonomie des domaines, c'est-à-dire le maintien articulé du politique et du religieux au plan sociétal, la laïcité prône une séparation stricto sensu, ce qui conduit à faire du religieux une essence de la seule sphère privée. Une telle problématique, on le veuille ou non, finit par identifier le religieux à un subjectivisme aléatoire, à une production imaginaire totalement arbitraire. En adoptant la laïcité, le monde venait, sans le savoir, de basculer dans le chaos, pris en otage par Satan et ses suppôts. Déjà au XIXe siècle, deux personnalités éminentes françaises s'étaient plaintes. D'abord, Alexis de Tocqueville, ministre français des Affaires étrangères dans les années 1800, cité par Yves Le Dur dans son ouvrage « Sécularisation et statut religieux » disait « Nous pouvons retenir de la réflexion de Tocqueville que l'opposition religion-politique est nuisible à une bonne gouvernance. » À ses yeux, la tendance naturelle de l'esprit est d'articuler pouvoir politique et pouvoir spirituel, c'est-à-dire, selon sa propre expression, d'harmoniser la terre avec le ciel. Ensuite, le sociologue français Aimé Durkheim, cité toujours par Yves Le Dur dans le même ouvrage, disait « Émile Durkheim contestait cette approche restrictive. » À ses yeux, la religion est un puissant facteur de lien social. À ce titre, elle contribue à l'équilibre de la société. Mais hélas, ils ont péché dans le désert. Le mal était déjà fait. Et depuis lors, la société est allée de dégradation en dégradation, subissant au fil du temps le chaos des fléaux, tantôt démoralisant, tantôt corrupteur et dévastateur. Conséquence. Le monde tombe donc sous la prise des politiques publiques sans foi ni loi, dont le seul objectif est de détruire en l'homme toutes les valeurs lui permettant d'être et de demeurer la créature dont le Créateur a voulu. Le sécularisme et les religions soutenues par une puissante propagande répandent leurs influences corruptrices en des cercles sans cesse élargissant et semblent capables d'engloutir le monde. Soutenu par les pouvoirs publics, le processus de déshumanisation s'installe. Les tendances déshumanisantes, soutenues par les supposés droits de l'homme, injectent dans la société des idées de la libre pensée et du droit de disposer de son corps, donnant ainsi libre cours à l'avortement et à l'homosexualité. Ces forces, constamment soutenues par la propagande de la presse et de la télévision, ont véhiculé aussi le divorce, la contraception, les drogues et toute forme d'indécence et de brutalité dans le cœur de chaque foyer. La simplicité et l'innocence de chaque nouveau-né sont dès lors à la merci de cette influence dévastatrice. Leur principale cible est le monde de l'éducation et la principale arme est la mirobolante invention des droits des enfants, visant à vider l'école de toute son essence, n'ayant plus le pouvoir de corriger et de redresser. L'école ne forme plus, elle déforme. L'école n'éduque plus, elle corrompt. La dernière fois, j'étais en train de rentrer après une réunion ici au Sénat avec mon frère de Genève. Et nous étions sur la voie de l'Indoromène. Nous avons empêché un jeune qui était à moto, qui roulait dans un sens interdit et qui faisait un beau zoom. Vous connaissez le beau zoom? Hein? Dans un sens interdit, hein, vous imaginez un peu, et qui faisait de l'acrobatie avec sa moto. Le frère me dit, ah, mon frère, il faut qu'on éduque bien nos enfants. Et je lui ai répondu, je fais l'effort, mais j'ai peur de l'école. Parce que quand mes enfants quittent la maison, je n'ai plus le repos sur eux. L'école, autrefois lieu d'éducation et de formation, est de nos jours lieu d'intoxication comportementale, de déformation et de transformation. L'école est devenue le lieu de débauche par excellence, où les élèves fornitent dans des salles de classe, mieux encore. Ils fornitent dans des salles de classe pendant les cours en présence des enseignants. Pire encore, pendant que leurs camarades élèves filment leurs actes comme les amoureux sur les bancs publics. Vous connaissez la chanson de Georges Brassens, les amoureux qui décochent sur les bancs publics. Vous connaissez ça? Bon, sauf que Georges Brassens, en chantant, n'a pas dit les amoureux qui forment sur les bancs publics, mais il a bien dit les amoureux qui décochent sur les bancs publics en se disant les je t'aime pathétiques. C'est plus drôle comme ça. Aujourd'hui, on rentre à l'école polie et bien éduquée avec une bonne moralité. Et on en ressort impoli, mal éduqué, avec une moralité douteuse et parfois sans le diplôme. Ce dernier remplacé par une grossesse. On a vu ensemble dernièrement la liste qui a été publiée par une direction d'éducation. 40 filles au cours d'une seule année. 40 ou 41 filles. Face à cette démission de l'école, la rue, la télévision et l'internet, ce mal nécessaire, et les réseaux sorciers ont pris la relève. Le banditisme et l'incivisme, copiés dans la rue, sont sans cesse grandissants, rendant notre agglomération invivable et dangereuse. La télévision et internet ont rendu notre jeunesse oisive et paresseuse, s'adonnant aux jeux du hasard, en attendant encore que la bande tombe du ciel. Le truc que vous voyez dans les rues, si ce n'est pas Wallis Smith, c'est le tenu. Les jeunes, ils travaillent, ils trouvent un peu d'argent, on va beaucoup aller jouer dans le tenu parce qu'on ne veut pas travailler beaucoup, mais on veut avoir l'argent et vite. Et ceux qui sont plus ou moins, ceux qui maîtrisent, c'est les paris sur les matchs. Les gens investissent des millions là-dedans. On veut devenir riche sans effort. Les réseaux sociaux, quant à eux, sont devenus un lieu de formation en dépravation des mœurs, dont les principaux modules de formation sont l'exposition du corps avant la mort et le e-commerce du sexe. Nous pouvons ensemble imaginer des gens de foyer ou de famille qui peuvent être issus d'une telle jeunesse. L'Église nous a appris l'abstinence avant le mariage et la fidélité après. La rue nous dit que c'est la fornication avant le mariage et l'infidélité après. Le résultat est là. Voici les gens de société que nous avons aujourd'hui. Que sera votre monde de demain? L'espoir est-il encore permis? Oui, puisque l'espérance ne le soit jamais. La grande aventure pour Dieu. Devant cette situation alarmante, la grande aventure pour Dieu est donc le rôle crucial que la Légion de Marie doit jouer pour aider à redresser notre société en perdition. L'idée d'aventure vient du fait que nous sommes une armée et nous partons en guerre contre ces forces dévastatrices. Nous ne pouvons pas peur nous poser la question de savoir que peut la Légion de Marie devant ces forces redoutables et leur sophistiqué moyen de propagande. C'est comme le comédien ivoirien qui dit que peut le mieux dans une bataille où il y aura un lion à sa gravité. C'est ça, non? Donc, devant tout ça, là, le lion va se dire est-ce que nous allons faire quelque chose contre cette grâce-là? Voilà. Donc, à cette question, le manuel répond. comparé à ces forces formidables qu'il est modeste le troupeau constitué par la Légion de Marie. Cependant, ce contraste même la maladie. La Légion est composée d'âmes qui sont unies à la Vierge toute-puissante. Il y a plus. Elle contient en elle-même des principes élevés et elle sait les appliquer avec efficacité. Celui qui est tout-puissant peut faire de grandes choses en elle et par elle. C'est extrait de la lecture spirituelle d'aujourd'hui. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Elle t'écrasera la tête et tu la tiendras au talon. » C'est dans cette parole adressée par Dieu à Satan que la Légion se tourne comme à la source de sa confiance et de sa force dans la lutte contre le péché. Elle aspire de toute son âme à devenir en plénitude la semence, les enfants de Marie, car en elle réside le gage de la victoire. Plus Marie deviendra sa mère, plus l'unité de la Légion envers les puissances du mal s'intensifiera et plus la victoire sera complète. C'est du Matthieu à la page 20, chapitre 7. Mais pour y arriver, il y a une condition, celle d'être de vrais soldats du Mali. Les vrais soldats du Mali doivent être loyaux, fidèles, disciplinés et disponibles à s'engager dans toutes les batailles à livrer aux côtés de leur reine. Comme leur reine, ils doivent être compatissants avec le monde et le regarder avec amour, de manière à trouver en chacun des humains la personne même de notre Seigneur qu'ils sont appelés à servir. C'est en cela seulement qu'ils peuvent impacter ce monde et penser à restaurer cette société qui est aux abois. Les systèmes matérialistes aussi déclarent aimer et servir les hommes. Ils prêchent un évangile trompeur de fraternité. Des millions adhèrent à cet évangile. En son nom, ils désertent une religion qu'ils croient inerte. Cependant, la situation n'est pas sans espoir. Il y a moyen de ramener à la foi 5 millions de déterminés et d'en sauver d'innombrables d'autres millions. Cet espoir réside dans l'application d'un grand principe qui gouverne le monde et que Saint Jean-Marie Vianney le Curé d'Ars a exprimé ainsi. Le monde appartient à celui qui l'aime le plus et qui lui prouve cet amour. C'est l'extrait de la lecture spirituelle du jour. Toujours dans le manuel, nous lisons ceci à la page 70 du chapitre 12. De même qu'un général regarde avec satisfaction ces postes importants à département gardé, la Légion est heureuse de constater que tout est bien en place partout. Dans les foyers, les boutiques, les usines, les écoles, les bureaux et tous les autres lieux de travail ou de récréation où un vrai légionnaire est placé par les circonstances. Même dans les retranchements du scandale et de l'impiété, la présence de cette nouvelle tour de David barrera la route au mal et l'empêchera d'avancer. On ne se résignera jamais à la corruption. On tentera des efforts pour y remédier. On la déplorera, on priera, on la combattra résolument, sans relâche et probablement avec succès à la fin. C'est toujours une manière. Tout ceci est beau et bien dit, si réellement c'était le cas. Parce que la question fondamentale qu'il faut se poser est de savoir si tous les légionnaires placés dans ces circonstances sont de vrais soldats de Marie et jouent effectivement leur rôle de levain dans la communauté pour pouvoir impacter et transformer cette dernière. À proprement parler, c'est la Vierge Marie, reine de la Légion, qui nous pose cette question. Mais avant d'arriver à la question de la Vierge Marie, je voudrais vous raconter une histoire vraie, qui, dans la fin, est une question similaire à celle de la Vierge Marie. Lorsque nous étions étudiants à l'université, nous avons un camarade qui a écrit une lettre à son grand frère. Son grand frère était un cadre de l'administration et apparemment il voulait aider son petit frère dans cette étude. Donc il a écrit cette lettre. Bonjour grand frère. Dans l'histoire de la résistance à la pénétration européenne en Afrique, l'on retient deux noms, Béhanzin et Samori Touré. L'un, c'est-à-dire Benazin, a échoué. Et l'autre, Saori Touré, a réussi. Si Benazin a échoué, c'est parce qu'il a été trahi par ses frères. Si Saori Touré a réussi, c'est parce qu'il a été soutenu par ses frères. Si toi, tu es mon grand frère et tu ne peux pas m'aider, à quoi tu me sers? C'est la fin de la lettre. C'est donc la question similaire que la dette Marie vous pose. Si vous êtes des soldats et que vous ne pouvez pas m'aider dans la grande aventure pour Dieu, qui consiste à écraser la tête du serpent et à implanter le règne du Christ, à quoi vous me servez? Cette question nous interpelle tous, en commençant par moi. Et nous savons aussi que la réponse à cette question doit être la recherche constante de l'amélioration de notre statut de chrétien et surtout de légionnaire pour plaire à Dieu d'abord et être capable et digne d'accomplir son œuvre aux côtés de notre règne. Que la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, nous soutienne en cette année du mouvement de jeunesse, dans le mouvement jubilaire, pour que nous soyons de vrais pèlerins, signe d'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.